Sophie, vous m'entendez?
Yes, sir. We hear you.
Please, I need help.
Oh, je déconne.
Allez. Une heure to vous.
Hey, boys! Come save me!
We're gonna be fine.
Say it again.
Une heure to vous.
We're gonna be fine.
Now, go away, Tom.
Allez, action!
Help me!
Action, pourquoi faire?
Il y a tant de films dans ce film, contes, mélodrames, politique, espionnage, musical, thriller, et il y a tant d'imagination chez cet homme, autodidacte, boulimique et maître du cinéma fantastique. Sur notre affiche ce matin, un Mexicain à Hollywood. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
En 1962 et en pleine guerre froide, dans un labo secret militaire américain, une jeune femme de ménage, muette, va tomber amoureuse d'un détenu, une créature mi-homme, mi-poisson. Rencontre de deux solitudes, deux exclus, c'est le thème dingue de ce film merveilleux, La forme de l'eau. Le concepteur et le créateur de cette histoire s'appelle Guillermo del Toro, mexicain et prince du cinéma à Hollywood, et nous l'avons rencontré. Avant cela, del Toro a bâti une œuvre, 9 films et d'autres productions encore pour ce travailleur acharné, ami des monstres et des fantômes, entre autres créatures. Bonjour Philippe Rouillet.
Bonjour.
Journaliste, critique à positif et fan del Toro, vous nous raconterez l'itinéraire et l'univers de ce geek nourri de littérature, de peinture et de cinéma. La forme de l'eau de Guillermo del Toro sort mercredi prochain. Lui jure que c'est son dernier rôle et si c'est le cas, il n'a pas raté son final. Daniel Day-Lewis dans Phantom Thread à l'affiche cette semaine à côté de Dujardin, Cédric Kahn, Wajib. 4 histoires fantastiques et un jour, ça ira.
Le cinéma, tel que je le comprends, c'est de la vie. Et c'est la vie qui nourrit le cinéma, tout naturellement. Ce qui fait pour moi vraiment la différence, c'est que pour faire du cinéma, il faut que j'aie vécu. Il faut que j'aie été amoureux, tabassé, bourré, seul et à la rue, bousillé. Tout. Si tu n'as pas vécu, ton cinéma, il n'a pas de vie. Et si tu n'as pas de cinéma dans ta vie, elle est chiante. Alors, c'est une affaire un petit peu où tout s'entremêle. Je ne sais pas. Parfois, la vie est plus importante que le cinéma. Et parfois, le cinéma, il est plus important que la vie.
On peut le dire, Guillermo del Toro a beaucoup vécu et a beaucoup puisé dans son enfance mexicaine. Tout vient de là. Né en 64 à Guadalajara, élevé parce que ses parents partaient beaucoup en voyage, par sa grand-mère catholique. Philippe Rouillet, il faut s'arrêter sur cette grand-mère catholique.
Ah bah oui, parce que cette grand-mère catholique, c'est pas rien. Il faut bien penser que c'est vraiment la religion extrême. En fait, quand Guillermo a 4 ans, elle lui dit, tu sais, il y a le péché originel, donc tu en es, c'est de ta faute aussi. Hein, alors qu'il dit, mais j'avais fait aucun péché, je vous promets, à 4 ans. Et là, elle dit, donc tu vas souffrir dans les flammes et quand tu seras mort. Mais si tu veux payer un peu ta dette tout de suite, tu peux souffrir dans ta vraie vie maintenant. Et il dit, bah oui, alors si je brûle moins après dans les flammes de l'enfer. Donc elle lui installait des capsules de bière dans ses chaussures pour que ses pieds nus saignent sur les capsules. Et voilà, et comme ça, il souffrait terriblement.
Et qui buvait autant de bière pendant ce temps-là?
Ah ben ça, c'est une bonne question. Et vous savez qu'à l'église, où évidemment elle l'entraînait à être une sorte de bigot lui aussi, il était porte-parole de la Vierge, pauvre petit bonhomme. C'est une sorte de variante d'enfant de cœur. Donc tous les dimanches, il devait faire un discours, qui était le discours de la Vierge. Alors il le préparait, et pour ça, il allait dans les catacombes qui étaient sous l'église. Et il avait repéré une tombe qui était un peu décellée, et il y avait les pieds du mort qui étaient là, avec les chaussures qui avaient été rongées peut-être par des rats, et il voyait des bouts de chair, d'os, etc. Et donc ça, c'est quelque chose, c'est une image évidemment qui le frappait, et du coup la religion a tout de suite été associée aux visions du fantastique.
Enfant solitaire, je le disais, donc nourri aussi de littérature, de BD, de peinture, Goya.
Voilà, parce qu'en fait, comme il dit, j'étais beaucoup tout seul.
Oui.
En fait, j'ai pris la bibliothèque de mes parents et j'ai tout lu. Alors, par exemple, il y avait une encyclopédie d'histoire de l'art. Il dit, j'ai lu du premier au dernier volume, de la page 1 jusqu'au bout. Donc, il connaît tous les mouvements de peinture, de sculpture, et aussi beaucoup de traités d'anatomie. Et évidemment, ça le passionnait, le côté botanique et le côté anatomie, corps humain. Et à côté de ça, il a une enfance normale. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire qu'il lit beaucoup de comics books. Donc, vous voyez, le mélange des comics avec les traités d'anatomie et de religion. Et il dit finalement, arrivé au début de mon adolescence, j'ai remplacé la Sainte Trinité catholique par une Sainte Trinité de mon cru inspirée du film d'horreur avec la créature de Frankenstein, la créature du lac noir et le loup-garou. C'était ça ma Trinité.
C'est fou. Ensuite, il va être formé par, on saute un peu quelques étapes, certes, mais il va être formé avec un grand monsieur qui s'appelait Dick Smith, créateur de maquillage.
Bah, c'est l'exorciste.
Et oui, et Little Big Man aussi.
Et Little Big Man, ouais. C'est-à-dire que c'est un des plus grands maquilleurs de l'histoire du cinéma. Dick Smith, il a eu des Oscars et tout ça, donc il allait aussi bien dans le genre, type l'exorciste, que, vous l'avez dit Christine, Little Big Man, Taxi Driver, donc c'est un des maîtres, et il a appris avec lui, au point qu'après il crée sa boîte.
Et il réalise son premier film qui s'appelle Le Chronos en 1993, ensuite son père est enlevé, on lui demande une rançon, et à partir de cet événement, il va s'expatrier aux États-Unis où il réalise son premier film américain, mais très mauvaise expérience avec Harvey Weinstein pour Mimic, mais pour son deuxième film, et là on va s'arrêter là-dessus, c'est L'Échine du Diable.
Troisième.
Il va se tourner vers deux producteurs espagnols qui sont Pedro et Agustín Almodóvar, L'Échine du Diable.
Voilà, et L'Échine du Diable, du coup, c'est un film très personnel.
La guerre civile espagnole.
Voilà, c'est la guerre civile espagnole et c'est l'enfance. Et avec Le Labyrinthe de Pan, qui va réaliser après.
Un diptyque, hein.
Qui sont, voilà, c'est deux films, ils sont pas jumeaux, mais complémentaires. Où il est également question de l'enfance et l'imaginaire. Alors, dans L'Échine du Diable, on est dans un orphelinat.
Oui.
Et le héros du film, le petit garçon qui arrive au début du film, c'est un orphelin. Et dans cet orphelinat, tout se cristallise. Parce qu'il y a à la fois caché l'or des républicains. Donc, il y a un côté un magot. Hein, et de l'autre, cet orphelinat serait hanté. Par un fantôme.
On entend la musique du film.
Et voilà. Et évidemment, il va falloir faire face à ses peurs. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que enfant, Guillermo del Toro a dû faire face à ses peurs.
Et surtout, enfant et adolescent, il a rencontré dans des bars dans son pays beaucoup de réfugiés espagnols. Et ce sont ces gens-là qui l'ont beaucoup influencé et qui lui ont donné, dira-t-il plus tard, ce goût de la liberté.
C'est très beau cette histoire, oui, oui. Mais c'est ça, Guillermo del Toro, c'est-à-dire que c'est un foisonnement, on peut pas dire il y a une chose, il y a une autre. Mais c'est vrai que quand il était petit, il faisait comme ce qu'il appelait des rêves éveillés. C'est-à-dire qu'il se réveillait dans sa chambre et il avait l'impression qu'il ne rêvait pas, mais que, par exemple, sa couverture, c'était des mains de zombies, etc. Et il avait tellement peur qu'il a passé un pacte avec ses monstres de sa chambre en disant « Vous me laissez aller aux toilettes et je vous aimerai toute ma vie ». Ces films sont des rêves éveillés. C'est exactement ça. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que sa création, on l'a souvent dit, mais il a toujours des carnets avec lui sur lesquels il dessine. Il dessine pour les films futurs, il dessine des idées qu'il a, et c'est avec à la fois des écrits et des dessins. C'est quelque chose de très particulier. Et il y a ce mélange, ce qu'il vient de dire là, c'est-à-dire que le cinéma est dans sa vie et la vie est dans son cinéma. C'est-à-dire que tout circule et chaque instant de sa vie... est lié avec ça.
Et cette obsession de l'Espagne revient dans Le Labyrinthe de Pan. L'Espagne, en 44, on écoute un morceau de la bande-annonce du film.
Cuentan que hace mucho, mucho tiempo, en el reino subterráneo, donde no existe la mentira ni el dolor, vivía una princesa que soñaba con el mundo de los humanos. Un día, la princesa escapó.
He visto un hada.
Cuentos de hadas. Ya eres muy mayor para llenarte la cabeza con tantas zarandajas.
Soy un fauno. Vos sois la princesa Moana, hija del rey de Bezmorra. Habréis de pasar tres pruebas. Iréis a un lugar muy peligroso. Lo que ahí dormita no es humano.
La magia no existe.
Philippe Rouyer, c'est une petite fille et son beau-père franquiste, et c'est lui le monstre du film.
Évidemment, c'est ben ça oui. L'idée, c'est que il est joué par Sergi Lopez, oui. Qui est plutôt un acteur, même si on l'avait vu dans Harry, un ami qui veut du bien, un peu méchant, mais et il a pris un réel plaisir à ça. Mais pour la gamine qui a 11 ans, elle a le choix entre la vraie vie qui est monstrueuse, parce qu'il y a ce beau-père qui est un militaire franquiste sadique, on est juste après la fin de la guerre, hein. Oui. Et sinon, se réfugier dans l'imaginaire. Mais la grande idée du film, c'est que l'imaginaire n'est pas si beau que ça. C'est-à-dire que l'imaginaire est lui aussi très dur. Et on a dit que c'était son premier film adulte, hein, parce qu'il portait... Mais c'est un regard adulte sur l'enfance. Et évidemment, il y a un lien très net avec la forme de l'eau. D'ailleurs, la petite fille ressemble un peu à Sally Hawkins, hein, oui. En plus jeune. Et sauf que dans la forme de l'eau, c'est vraiment un regard adulte sur quelque chose d'adulte, sur le monde des adultes. Mais le labyrinthe de Pan, vous savez qu'à l'époque où il est sorti, il y a eu un énorme succès, mais les gens emmenaient leurs enfants. Et il a fallu, alors en France, il a été interdit moins de 12 ans, il n'y a pas eu de problème, mais au Mexique et en Espagne, il a fallu mettre des pancartes en disant, attention, des scènes de violence graphique terribles, etc. C'est pas pour un public trop jeune, non.
Ce qui est beau avec Guillermo del Toro, c'est qu'il fait un cinéma très référencé et en même temps très populaire.
Ah ben oui, parce que mais c'est, là, il retrouve l'incarnation de ce qu'est le fantastique. La grande vogue du cinéma fantastique dans le cinéma américain des années 30, c'était très populaire. Dracula, le loup-garou, Frankenstein, c'était pas des trucs du tout pour les intellos. Mais simplement, avec le fantastique, on parle réellement de la vie. Et c'est ça qui est beau. Et c'est ça aussi qui nous touche dans la forme de l'eau. C'est-à-dire qu'évidemment, on va pas demain aller se mettre en ménage avec une créature amphibie. Enfin,
parlez pour vous,
peu d'entre nous, voilà. Pas pour moi, mais en même temps, ce que ça raconte, on peut dire, mais oui, si, ce que ça raconte, ça quand même, ça touche nos vies.
Alors, ce que ça raconte, donc je le disais en ouvrant 7 heures, en 1962, dans un labo scientifique militaire, en pleine guerre froide, l'armée détient une créature amphibienne humanoïde, bref, mi-homme, mi-poisson, que convoitent également des espions russes. L'héroïne de ce film, une jeune femme de ménage muette, va peu à peu s'approcher de lui et finalement tomber amoureuse. Ça serait la première grande histoire d'amour de Guillermo del Toro, non?
Ben oui, c'est ça, parce qu'avant, ces personnages étaient... Enfin, il y a quand même eu Crimson Peaks,
oui.
Hein, juste avant, qu'il a vraiment voulu faire comme une romance gothique, mais il s'est mal entendu avec les producteurs qui l'ont vendu comme un film d'horreur. Et le film était...
Pas une réussite. Hein,
voilà, le film n'était pas une réussite. Non. Mais techniquement, c'est quand même il y a quand même une histoire d'amour. Mais là, cette fois-ci, c'est la première vraie histoire d'amour. Et une histoire d'amour avec de l'imaginaire. C'est-à-dire que c'est... On l'a dit, c'est pas deux êtres humains. Et c'est ça qui est beau. C'est-à-dire que comme si, tout d'un coup, il se mariait avec le fantastique.
Et en même temps, plein de références sexuelles, Philippe Rouyer.
Ah, mais c'est ça qui est bien, parce que. Ouais. Mais oui, parce que, souvenons-nous, vous vous souvenez de 7 ans de réflexion, Marilyn Monroe, elle va voir l'étrange créature du lac noir, et en sortant, elle dit, oh, moi, je suis triste de la fin, et l'autre lui dit, bah, quoi, t'aurais voulu qu'il se marie avec la créature? Elle dit, bah, ouais, parce que c'est triste pour la créature. Et là, tout d'un coup, il venge l'histoire du cinéma, et d'une image d'horreur, il en fait une image d'amour. C'est-à-dire que la bête emmène la belle, et la belle est contente, et la bête se transforme pas en prince charmant. Le prince charmant reste la créature. Ouais. Et alors, on s'est tous dit, c'est comme avec King Kong, comment ça marche? Eh ben, alors que l'héroïne est muette, elle raconte quand même à sa copine, parce que ça reste quand même une copine, donc on se raconte nos histoires de cul, et ben elle lui raconte le secret, nous on le dira pas, hein, mais elle raconte, dans le langage des signes, elle lui raconte le secret de la créature. Ça, depuis les années 50, tous les cinéphiles se demandaient comment faisait la créature du lac noir.
On vous l'a présenté, on vous a raconté son enfance et ses influences, et maintenant le voici, Guillermo del Toro, traduit et interprété par Harold Manning.
If I told you about her, the princess without voice, what would I say?
Eliza, come on. Eliza, hurry, hurry.
She deaf?
Mute, sir. She can hear you.
You clean that lab, you get out.
When he looks at me, he doesn't know how I am incomplete. He sees me as I am.
J'avoue, j'en ai bavé pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous.
The natives in the Amazon worshipped him like a god.
get him out. What are you talking about?
No.
We need to take it apart, learn how it works.
I don't want an intricate, beautiful thing destroyed.
We can do nothing. I'm sorry.
Don't do this, Eliza.
What is she saying?
Don't do this.
Oh, God, it's not even human.
Bonjour, Guillermo.
Bonjour, comment ça?
Bien, merci. J'ai le sentiment qu'avec ce film, vous allez enfin toucher un public plus large, le vôtre et beaucoup d'autres spectateurs. Et ce qui est fantastique avec vous, c'est que vous n'avez jamais fait de compromis avec vos ambitions artistiques. Vous n'avez jamais perdu votre âme, en fait.
J'essaye. Une production aussi modeste que Chronos, qui a remporté $1 million aux États-Unis, est selon moi un film aussi personnel que Pacific Rim, qui a fait 400 millions dans le monde entier. Le succès public, c'est imprévisible, c'est selon. Je veux dire par là que chaque film s'adresse au nombre de spectateurs dont il a besoin. Mais le succès n'est pas toujours au rendez-vous. Ce film, je le trouve particulièrement nécessaire, aujourd'hui, pour contrer toute la laideur, la brutalité, la haine et la peur qui semblent nous diviser un peu plus. C'est un bon remède, je crois. C'est un film qui parle d'amour et qui est amoureux de l'amour.
Conte de fées, histoire d'amour, film politique, film d'espionnage, comédie musicale, thriller, c'est vraiment un grand hommage au cinéma.
C'est une grande lettre d'amour au cinéma. Mais voilà ce qui était compliqué dans ce film. Ce qui semble facile, c'est de passer d'un registre, d'un genre à l'autre, et puis à un autre encore. Mais c'est compliqué. Ça demande beaucoup de talent de la part de tous les intervenants, le directeur de la photo, les décors, les acteurs, le réalisateur. Tout doit être parfaitement calibré pour que vous ne sentiez pas les bosses, pour que vous passiez d'une scène à l'autre, d'un genre à l'autre, sans que vous voyiez les coutures.
Le film de genre vous permet-il de tout raconter, de parler tout?
Oui, parce qu'il n'y a rien de plus réaliste que le rêve. Le rêve vous permet d'aborder de grandes choses sans la lourdeur des sujets politiques aux infos. Si je vous parle d'un sujet d'actualité, comme le Brexit, Donald Trump, le racisme, ça va finir en discours univoque. Mais si je vous parle de ces trois sujets, ou bien du fait que le balancier de l'histoire aujourd'hui, il penche en ce moment vers l'intolérance et la haine. Je peux les évoquer par une fable comme celle-ci, et là vous allez m'écouter.
Quand avez-vous eu le sentiment de ne pas être compris?
Oh, mais tout le temps. Parce que le genre dans lequel je travaille est terriblement mal compris, le fantastique. Les gens voient ça comme un truc enfantin, un truc pour ados. Alors qu'en vérité, c'est le domaine le plus intriguant et complexe qui existe.
La forme de l'eau, c'est l'histoire d'un amour très pur, à une époque particulièrement troublée, pleine d'incertitudes, la guerre froide, où tout le monde a peur de tout le monde, non?
Mais c'est comme maintenant. C'est bien ça l'idée. Le film ne parle pas de 1952, il se passe en 52. Mais il parle d'aujourd'hui. Il s'ancre dans le passé. Parce qu'un conte de fées, ça commence par « il était une fois ». Alors, il était une fois, en 1952, les pays du monde vivaient dans la crainte, il y avait le racisme, le sexisme, ça c'est des choses qui sont vraies aujourd'hui, mais c'est plus joli, plus charmant de les aborder comme ça.
You may think that thing looks human, stands on two legs, right? But we're created in the Lord's image. You don't think that's what the Lord looks like, do you?
This creature is intelligent, capable of language, of understanding emotions.
Le grand pari du film, bien sûr, c'est l'amant, c'est la créature. Une créature qui est en même temps un homme auquel on peut et on doit s'identifier.
Oui, c'est pourquoi la conception de cette créature nous a pris 3 ans. 3 ans d'ébauche, de tentatives, de sculptures, de dessins, avec tout le métier des meilleurs techniciens qu'on puisse trouver, les sculpteurs, les peintres, et le meilleur acteur pour l'interpréter, Doug Jones, qui nous a donné à voir une créature incroyable, belle, virile, élégante.
Parce que cette créature, si on n'y croit pas, on ne croit pas au film.
Bien sûr, il y a deux éléments cruciaux. Il y a lui, et il y a le regard que Sally porte sur lui, par lequel on comprend qu'elle voit une véritable créature et qu'elle en tombe amoureuse.
Vous avez dit au comédien Doug Jones, je veux voir un torero sexy et menaçant, avec en même temps la fluidité des mouvements du surfeur d'argent.
Oui, je lui ai dit ça, oui. Je lui ai dit, il y a cette posture du torero dans l'arène qui est à la fois très animale et en même temps très élégante et sexy. Je lui ai dit, sois vigilant, ne bouge pas comme un humain. Tu dois avoir la puissance d'un dieu et la puissance d'une bête. Dans chaque geste, je lui ai dit, si je vois que c'est humain, je l'utiliserai pas à la prise. Et il y a quelques plans qui ne sont pas dans le film, qui ont été coupés au montage, parce que je pouvais y voir l'acteur. Et là, j'ai coupé.
Vous vouliez aussi qu'il ait une âme, et l'âme, c'est dans le regard. C'est pour ça que vous avez voulu, pour lui, disposer de plusieurs yeux pour obtenir d'autres émotions.
Les yeux, c'est particulièrement délicat. On avait quelqu'un qui s'occupait exclusivement de la création des yeux de la créature. Et puis on les a numérisés, et le résultat est un mélange des yeux réels et d'images numériques. Mais la profondeur et l'aspect liquide de ce regard, qui est très profond, très expressif, très beau, est essentiel pour qu'on y croie. C'est pour ça que la première image hors de l'eau, ce sont les yeux, le battement de ses paupières. Et là, le public dit, j'y crois. Oui, cette créature existe, vous voyez.
L'eau, c'est un élément sensuel. Est-ce que c'est difficile à filmer?
C'est un élément très difficile à filmer, mais l'eau c'est aussi un élément magique. Tout ce qui est sous l'eau se part d'une beauté, d'une grâce qui n'existe plus à l'air libre. Et moi j'avais très envie de montrer que l'eau et l'amour, c'est la même chose. Parce que l'amour n'a pas de forme, tout comme l'eau. L'eau, vous la versez dans un verre, dans une bouteille, elle prend cette forme-là. Et l'amour prend aussi la forme dont il a besoin, la personne que vous aimez. Vous n'avez pas d'emprise sur elle, vous tombez follement amoureux et c'est tout. C'est un sentiment très doux, très souple, comme l'eau. Mais il peut tout traverser, comme l'eau. L'amour et l'eau, c'est une analogie qui m'intéressait.
Vos collaborateurs disent que Guillermo est heureux quand il peut sentir le cœur de ses acteurs qui bat. Quand est-ce que vous sentez ça?
On le sent aux répétitions. C'est là que le film se met à vivre pour la première fois, avec les comédiens. Imaginez que le scénariste, le réalisateur, il s'achète un ballon de foot. Vous voyez ? Mais il n'y a personne pour jouer. Et vous passez le scénario au comédien, et il donne un coup de pied dans la balle. Et c'est là que la partie commence. C'est là qu'on sent que le film est vivant. Le jeu peut commencer.
Et si vous entendez leur cœur battre, vous savez que vous entendrez plus tard celui du public battre aussi.
C'est exactement ça. C'est ça la recette. Si vos acteurs ne sont pas dedans, le public n'entrera pas dedans. Peu importe votre talent de metteur en scène, rien à faire. L'émotion ne passera pas. Littéralement, il y a deux territoires. Il y a celui du public et celui du réalisateur. Comme deux pays étrangers, les acteurs, ce sont les diplomates qui voyagent dans ces deux pays et qui permettent toute communication. Si vous n'avez pas ces diplomates, il n'y aura aucun contact.
C'est votre culture mexicaine qui vous permet d'accepter si naturellement les fantômes et les monstres.
Bien sûr, à 100%. Oui, c'est ça. Au Mexique, les monstres, les fantômes, tout ça c'est très naturel, ça fait partie de notre vie.
Vous avez rencontré un monstre une fois?
Ah oui, mais pas une fois, deux. La première fois, mon oncle, et l'autre, un meurtrier. J'ai entendu le fantôme d'un meurtrier en Nouvelle-Zélande. Je l'ai entendu dans ma chambre. C'était dans un hôtel en Nouvelle-Zélande, ouais.
Ça vient aussi de votre grand-mère.
Le surnaturel?
Parce que je crois qu'elle vous disait chaque soir qu'elle serait peut-être pas là le lendemain, peut-être morte.
Tous les jours. Tous les jours, je l'appelais. Et quand j'étais à ses côtés, là, ça allait. Là, j'étais en paix parce qu'elle n'était pas loin. Mais quand je dormais chez mes parents, je l'appelais tous les soirs pour lui dire « Bonne nuit, mamie, on se voit demain ». Et elle me répondait « Si je suis encore en vie, hein, parce que je vais peut-être mourir dans la nuit ». Et ça, ça me terrorisait. C'était étrange parce que ça me troublait vraiment beaucoup.
À la fin du film, il y a une morale. Accepte qui tu es, non ?
Accepte les autres. Écoutez, c'est très simple. Ce que tu n'acceptes pas chez les autres, c'est ce que tu n'acceptes pas en toi. C'est une recette toute simple. Si tu détestes quelqu'un parce qu'il est minable, c'est parce que c'est toi qui es minable. Tu détestes quelqu'un parce que c'est une grande gueule, c'est parce que tu te trouves grande gueule. Tu détestes quelqu'un parce qu'il est laid, parce que tu te trouves laid. Parce qu'il est beau, mais c'est parce que tu te trouves laid, toi. Tu voudrais être plus beau. Tout ça, c'est de l'ego. De l'ego. Mais si jamais tu es bien ta peau, en accord avec toi-même, tu n'as plus besoin de détester qui que ce soit. Un film ne doit pas avoir de message. Un film doit avoir un thème, et le thème de ce film, c'est l'amour de l'autre. Et pas pour sa ressemblance avec toi, mais pour sa différence. Sa différence, c'est ce qui le rend unique. Aimer son prochain, parce qu'il n'est pas toi-même, voilà l'essence de l'amour. On n'aime pas ce qui vous ressemble complètement, on aime celui qui marque une différence.
Poétique, magique, fantastique, Guillermo del Toro, l'auteur de La forme de l'eau qui sort mercredi prochain. Philippe Rouillet, est-ce qu'on peut dire que c'est son plus beau film, La forme de l'eau ?
Bah, avec Le labyrinthe de Pan, en tout cas, ouais. Je pense, c'est deux films les plus aboutis, deux films qui se répondent. Et c'est ce qu'il vient de dire, on est dans l'amour de la vie, et c'est ça qui est formidable. C'est-à-dire que c'est un film, allez le voir parce que ça vous fera du bien.
Ouais.
Je veux dire, c'est un film, vous n'avez pas besoin d'aimer le fantastique, même si vous n'avez pas aimé ou vous n'avez pas vu L'étrange créature du lac noir. Faut pas être impressionné en disant, oh là là, ça me semble un truc. C'est un film sur l'amour, c'est une histoire d'amour, c'est une comédie romantique. Il se trouve que voilà, c'est pas Grant, hein, dont elle s'est prend, mais ça revient quand même à ça, quoi. Et avec cette idée que l'autre doit être différent pour qu'on l'aime. Mais ce qui est très beau dans le film, c'est qu'avant que l'histoire s'enclenche, avant qu'il y ait la rencontre, elle a un emploi très modeste, hein, oui. puisqu'elle est femme de ménage dans un laboratoire militaire et on comprend que la vie doit pas être autre. Mais elle a un enthousiasme et une joie de vivre. Et il y a aussi ça, c'est que faut aussi être bien pour pouvoir s'ouvrir à l'autre. Hein.
Vous comprenez la polémique enclenchée par Jean-Pierre Jeunet sur les ressemblances entre Delicatessen et ce film-là.
Ce qui est très marrant, c'est que dans l'article que j'ai écrit dans Positif il y a deux mois, je signalais les deux hommages à Delicatessen.
Oui.
Et c'était bien avant que Jean-Pierre Jeunet. Donc je peux comprendre qu'il se soit reconnu. Et je peux comprendre aussi que Guillermo del Toro ait mis ça dedans. C'est-à-dire que le cinéma de Guillermo del Toro, mais comme beaucoup de cinéastes, et le cinéma de Jean-Pierre Jeunet, c'est ça aussi.
C'est un vol permanent, le cinéma.
Voilà, c'est ça. Alors, le terme de vol me chiffonne un peu. C'est
d'emprunt.
Des emprunts. Mais on s'en remet. Et je pense que Guillermo del Toro s'est même pas rendu compte. Au même titre qu'il y a quand même une séquence qui reprend Nous nous sommes tant aimés.
Oui.
De manière très frappante. Mais
et puis il y a du Cocteau et du Carlos Saura.
Voilà.
Enfin,
oui.
On pourrait multiplier les références.
Ça m'ennuie de parler de vol. Mais qu'on reconnaisse bien les choses, les deux séquences en question, moi je les ai reconnues Delicatessen. Après c'est vrai aussi, et Jeunet est le premier à le dire, que des inondations de salles de bain, il y en a eu avant lui, hein. il y a ce film de Laurel et Hardy, et il faut savoir que Laurel et Hardy était vraiment une des clés référentielles pour le film. Il a donné un DVD de Laurel et Hardy à Sally Hawkins en disant « Toi, tu dois jouer comme Stan Laurel ».
Ah oui.
Ce qui est quand même assez fou. Hein. C'est-à-dire que là, dans l'entretien, il nous parle de la démarche de Doug Jones qui fait la créature, mais il a demandé à Sally Hawkins d'être aérienne comme une star du muet.
D'ailleurs, il y a un dossier dans Positif, votre revue Philippe Rouillet, Guillermo del Toro sur La forme de l'eau. Le film sort mercredi prochain.
Oui.
Un dernier mot sur ces Mexicains à Hollywood, parce qu'il n'est pas le seul, avec Iñárritu et Cuarón.
On les appelle les trois caballeros.
Oui.
Les trois caballeros. Et à eux trois, ce qui est fou, c'est que c'est une réussite dingue, c'est qu'ils ont trusté les prix à Cannes, à Venise, à Berlin, les Ours d'Or, les Lions, les Palmes, ça y va dans tous les sens. Et ils sont très amis. Au oui. point que, eh ben, ils se font lire leur scénario, ils se produisent les montages, ils se coproduisent. Ouais. Même quand vous faites des masterclass, ça c'est tout juste si dans votre entretien, Christine, il n'y a pas Quaron qui a débarqué pour dire son petit mot. Parce que c'est comme ça qu'il fonctionne. C'est, et je trouve ça très beau, cette histoire. C'est un peu comme la nouvelle vague, hein.
Ou le nouvel Hollywood à l'époque.
Ou le nouvel Hollywood. C'est-à-dire ouais. qu'il y a quand même une histoire d'amitié et on se fait un peu la courte échelle.
Ouais. On vous reste avec nous, Philippe Rouillet. Donc La Forme de l'eau sort mercredi prochain. On se retrouve après Daniele Lupi et Parquet Courts pour Soul and Cigarettes. Et si on parlait des films qui sont sortis mercredi, on va commencer par l'apparition de Xavier Giannoli, Jacques, grand reporter pour un quotidien français. C'est Vincent Lindon, reçoit un jour un mystérieux coup de fil du Vatican dans une petite ville du sud-est de la France. Une jeune fille de 18 ans a affirmé avoir eu une apparition de la Vierge Marie. La rumeur s'est vite répandue et le phénomène a pris beaucoup d'ampleur. Jacques, qui n'a rien à voir avec ce monde-là, accepte de faire partie d'une commission d'enquête chargé de faire la lumière sur ces événements. C'est une enquête sérieuse, profonde, réfléchie, que mène Xavier Giannoli. Et au bout du compte, même si le film, moi, ne m'a pas convaincu, il reste, et c'est ce que j'aime chez lui, cette quête vraiment inspirée d'Emmanuel Carrère. Il dit « Je ne sais pas, alors je cherche et j'ai besoin du cinéma pour cela ». Est-ce que ça vous a convaincu, Laurent ?
Ben, moins, beaucoup moins. Jacques, c'est Vincent Monolithe Lindon. Et il faut avouer quand même que c'est un peu troublant, ces cinéastes français qui sont en train de parler de religion, parce que Cédric Kahn va nous donner bientôt la prière, c'est le titre du film, avec quand même, moi, une interrogation. Le souci, c'est qu'on peut pas parler de la fin. Alors, c'est très, très embêtant de ne pas divulgâcher, en l'occurrence, parce que quand même, beaucoup de choses qu'on peut dire sur le film et dans la fin. Oui, c'est comme ça qu'on dit au Québec, il paraît. Bon, c'est joli. Donc c'est un peu embêtant qu'on ne puisse pas parler de la fin, mais moi je suis gêné par cette façon d'aborder la religion, a priori frontalement, et puis finalement quand même de ne pas être si frontal que ça, et de refuser peut-être ce que faisait tellement bien par exemple Piala dans Sous le soleil de Satan, ou Cavalier dans Thérèse, c'est-à-dire d'aborder clairement le thème de la grâce, de scoltiner ce thème-là, de le traiter jusqu'au bout, et pas de faire quelque part un peu le malin avec un thème comme ça.
Avocat de la Défense, Philippe Rouillet.
Oui, parce que Laurent, je pense que en fait vous reprochez à Jean-Louis de ne pas avoir fait le film que vous auriez voulu voir.
Non,
c'est pas du tout un film. Non, mais c'est pas du tout un film sur la grâce. C'est pas du tout. C'est un film sur l'interrogation. C'est un film sur la foi et non sur la grâce. Et oui, bah, c'est pas du tout pareil. Et est-ce que pour avoir la foi, il faut avoir des preuves? Et c'est toute la question de cette enquête parlementaire. C'est-à-dire que d'un côté, il y en a un qui dit moi, je veux des preuves, je veux savoir si cette gamine elle ment ou elle ment pas. Voilà. Et puis les autres disent bah non, mais on peut pas travailler comme ça. C'est plus compliqué que ça parce que la foi, c'est bon. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette question-là innerve le cinéma de Giannoli. qui, vous savez, est quand même un cinéma qui est passionné par l'imposture.
C'est le même film depuis le début, ce point de vue-là.
Oui, hein. Et ben voilà. Ouais. Et je trouve que enfin, il se coltine. C'est un fou de Scorsese, hein, de Mean Streets et tout ça. Et enfin, il se coltine directement à la question de la religion. Et moi, le film me captive de bout en bout. Qu'il y ait des soucis. Et là, avant même de pouvoir parler de la fin, pendant le film, moi, je suis très tendu. Et je vous dirais même, j'ai eu plaisir à aller le revoir.
Phantom Thread de Paul Thomas Anderson. Dans le Londres des années 50, juste après la guerre, le couturier de renom Reynolds Woodcock, c'est Daniel Day-Lewis, et sa sœur Cyril règnent sur le monde de la mode anglaise. Ils habillent aussi bien les familles royales que les stars de cinéma, les riches héritières ou le gratin de la haute. Woodcock, célibataire aussi célèbre qu'endurci, jusqu'à sa rencontre avec Alma et cet amour qui va bouleverser sa routine. Et dire qu'il s'agirait du dernier rôle de Daniel Day-Lewis ajoute de la dramaturgie à celle du film, que l'on regarde comme un portrait de l'acteur qui s'est tellement investi dans ses rôles comme Woodcock dans ses créations. Et les fantômes du film, ce serait alors aussi Visconti, Hitchcock, mais tout respire Paul Thomas Anderson dans ce film, son obsession de la perfection et ce personnage tyrannique déjà présent dans There Will Be Blood ou The Master, plus cette histoire d'amour vertigineuse, Laurent.
Ben, je crois qu'on va tous voter bleu comme dans The Voice, hein. C'est-à-dire on va tous dire oui à ce film, je crois, tous les trois, il me semble qu'on est d'accord. Ouais. C'est-à-dire qu'on a vraiment, on a affaire à un très très grand film, très beau, très maîtrisé. C'est pas une nouveauté chez Paul Thomas Anderson, c'est juste une confirmation, c'est décidément de film en film, c'est ça qui se passe, avec, vous le disiez, un très beau portrait d'acteur. Ouais. Moi, j'en suis resté, mon compteur est un peu resté bloqué à Philip Seymour Hoffman dans The Master, de ce point de vue-là, mais c'est pareil ici, c'est-à-dire qu'on a un film formidable, et il faut quand même pas oublier Vicky Krieger, qui lui fait face, qui est une jeune actrice, beaucoup plus débutante que Lewis, mais qui est formidable dans l'altérité, justement, dans tout le contrepoint qu'elle donne à son personnage féminin.
Wajib, l'invitation au mariage de Anne-Marie Jassir, Abou Shadi, 65 ans, divorcé. Professeur à Nazareth prépare le mariage de sa fille. Shadi, son fils, architecte à Rome depuis des années, rentre quelques jours pour l'aider, parce que c'est une tradition, à distribuer les invitations au mariage de la main à la main, comme le veut cette coutume palestinienne du Wajib. Tandis qu'ils enchaînent les visites chez les amis et les proches, les tensions entre le père et le fils remontent à la surface. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'elle a pris un vrai père et un vrai fils, qui sont Mohammad et Saleh Bakri.
Exactement, Bakri père et fils, ouais. C'est magnifique, magnifique duo. Dans cette ville qui est Nazareth, alors il faut juste te dire que Nazareth, c'est la ville la plus israélienne, la plus arabe, ce qui lui donne un statut très particulier, c'est-à-dire que certes c'est à dominante israélienne, mais que les minorités musulmanes et chrétiennes sont extrêmement importantes dans la ville, et c'est ce tableau qui est donné, cette espèce de société tripartite qui vit à la fois ensemble et séparément, tout à la fois et tous les jours, et c'est ce portrait qui est tout à fait merveilleux. On pense à un cinéaste palestinien dont on n'a plus de nouvelles, hélas, qui est Souleyman. C'est assez proche de c'est assez proche de ce qu'il faisait. Je suis désolé de parler au passé pour l'instant. J'espère que ce sera pas toujours le cas. Mais c'est assez proche de ce qu'il faisait, avec peut-être cette idée que tant qu'il y a du cinéma, il y a de l'espoir.
Le retour du héros de Laurent Tirard, France 19e. Elisabeth est droite, sérieuse et honnête. Le capitaine Neville est lâche. Elle, c'est Jean Dujardin. Fourbe et sans scrupules, alors que elle, c'est Mélanie Laurent. Elle le déteste, il la méprise, mais en faisant de lui un héros d'opérette, elle est devenue malgré elle responsable d'une imposture qui va très vite la dépasser. Bref, une comédie d'aventure romantique inspirée de Rapneau, de Broca, mélangée à Jane Austen, autre influence de Laurent Tirard. Alors Dujardin, ce serait Belmondo, et Mélanie Laurent, Catherine Deneuve.
Oui, ou Marlène Jobert, dans effectivement Les Mariés de l'an 2. Les Mariés de l'an 2 furent écrits, il faut le rappeler, par Maurice Clavel, Jean-Paul Rapneau, Claude Sauté et Daniel Boulanger. Le problème du retour du héros, c'est qu'il est écrit par Laurent Tirard et Grégoire Vigneron, qui n'ont hélas le talent d'aucun des quatre précités. Non, mais c'est un vrai problème, c'est-à-dire qu'on ne peut pas écrire une comédie autant avec soit les pieds, soit avec désinvolture. J'ai lu quelque part que les dialogues sont brillants, si c'est ça le brillant, il vaut mieux passer du polish avant. C'est pas possible, quoi. C'est d'une vulgarité à certains égards, c'est d'une facilité à d'autres, ça ne marche pas. Il faut aller revoir éventuellement Les Mariés de l'an 2, mais certainement pas cette espèce d'ersatz. Il s'agit pas de le refaire d'ailleurs, mais il faudrait faire autre chose avec, pourquoi pas, des écrivains actuels, tiens, si on a envie de bons dialoguistes.
Philippe Rouillet, vous allez nous parler de quatre histoires fantastiques de William Labourie, Maël Lemay, Juste Philippot et Steve Calvo. Une transhumance de zombies dans un monde apocalyptique, une adolescente mutante capable de remodeler son corps, corps, un nuage acide qui dévaste tout sur son passage, une jeune fille électrosensible qui voyage hors de son corps, quatre histoires de la collection sauf film de genre.
Oui, parce que ce qui est très intéressant, c'est que vous savez, il y a une vraie complication avec le cinéma de genre et la France. Enfin, quand je dis le cinéma de genre, c'est le cinéma fantastique, horreur. Hein.
Oui.
Alors, on a le film de Pascal Laugier le mois prochain, qui a gagné à Gérardmer. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Et là, la bonne idée de Capricci a été de dire, eh ben, on va produire des courts-métrages et on va les mettre les uns avec les autres et ça fera une programmation de longs métrages. Voilà. Et c'est une très très bonne idée. Alors après, le programme, c'est comme dans les films à sketch. C'est-à-dire que c'est très inégal. Le premier sketch est un petit peu faible, donc on se dit, oui, aïe, où est-ce qu'on est parti? Et puis finalement, l'histoire de zombies qui s'appelle Livraison est pas si mal. C'est une manière de renouer, alors que c'est très contemporain, avec le mythe du zombie esclave manière Haïti dans les années 30. Et puis le troisième, avec cette adolescente qui a le pouvoir d'enfoncer ses doigts dans la chair de ses partenaires sexuels, c'est une sorte de manière de réinventer quelque chose entre Brian Usna et David Cronenberg. Et c'est très très astucieux, très intéressant, et ça renvoie aussi au corps, à l'autre, à toute la problématique adolescente, teen movie et sexualité, et fantastique. Non, c'est vraiment un film que je recommande.
Vive la jeunesse et vive le genre qui s'approche peu à peu de nous. C'est vachement bien ça en France. Un jour ça ira de Stan et Edouard Zambo. Une plongée au cœur de l'archipel, un centre qui à Paris propose une façon innovante d'accueillir les familles à la rue. Au cœur de ce film, JB entre enfance et âge adulte, lien entre toutes les communautés du centre. Nous n'avons pas modifié la réalité, disent les réalisateurs, mais il y a de la poésie chez ces enfants, même quand ils sont au 115. Nous voulions juste avoir un regard bienveillant, optimiste, nous laisser surprendre et nous laisser porter par l'énergie spontanée qui émanait de ce lieu. Et c'est réussi, Laurent.
Ah oui, c'est très réussi. Ouais. Après, les frères Lumière et les frères Dardenne, les frères Zambo, non, on va pas leur donner cet héritage écrasant, c'est pas vrai. Mais c'est pas le problème. C'est qu'effectivement, à travers les problèmes de logement, de travail, de statut, d'identité, de nationalité, comme dirait Aragon, tout est précaire comme vivre. Oui, alors vivre est absolument précaire dans cet environnement-là. Il faut résister, il faut se battre, et on finit par chanter. C'est ça qui est très beau, c'est qu'on finit par créer, par chanter, par être dans l'idée que les mots peuvent être plus fort que le malheur, peut être plus forte que le réel tel que ces gens-là et tel que ces enfants notamment les vivent. Il y a six très très belles chansons qui sortent du film. C'est à la fois très émouvant, très beau, et il convient, on espère que ce documentaire aura beaucoup de spectateurs qui sortiront revigorés et peut-être avec l'envie de se battre.
Un jour ça ira, il y aura beaucoup de spectateurs.
Voilà.
Finding Pong de Pong Tao Tran et Swan Dubu Malay. Interdit aux moins de 12 ans, tiens. C'est une Benjamine, ouais, d'une famille de 6 enfants qui a grandi dans une petite ville au centre du Vietnam, et depuis son plus jeune âge, elle s'est toujours considérée comme une fille prise au piège dans le corps d'un garçon.
Oui, c'est ça l'histoire. Et alors, ce qui est très très beau dans ce documentaire, c'est sa dualité, c'est-à-dire que les deux réalisateurs ont d'abord eu l'idée de donner la caméra au héros, hein, ou à l'héroïne, comme on voudra, du film, peu importe, à la personne qui est au centre de leur film. Et donc, c'est d'abord un journal intime. Et ça, c'est très très beau parce qu'on a vraiment le ressenti intime de cette personne. Et ensuite, ils ont repris leur statut de documentariste pour faire un documentaire aussi leur regard à eux. Donc on a le jeu et puis le nous, et puis le nous, on est dedans, avec notamment une façon très très intéressante de filmer la famille, évidemment, parce que on a une mère qui est absolument angoissée, un frère qui est angoissé aussi, et un père qui est absolument zen par rapport à cette transformation sexuelle. C'est l'un des plus beaux personnages du film, parce que justement lui est à la fois en dehors et en dedans comme nous.
On finit par une reprise parce qu'elle vous tient à cœur, c'est Vivre ensemble d'Anna Karina.
Ben oui, 1973, écrit et réalisé par Anna Karina, avec un acteur qui n'était pas Michel Lanceau, qui était un grand homme de radio. Et c'est notamment un beau portrait en duo du Paris des années 70 et du New York formidable des années 70.
Et sinon, on va conclure par une rétrospective hyper importante.
Ah oui.
C'est la rétrospective Todd Browning à la Cinémathèque française jusqu'au 4 mars. Browning, réalisateur, scénariste, producteur et acteur américain, des plus intrigants cinéastes de l'étrange et de la marge. On va écouter bien sûr tout de suite un extrait de Freaks, le repas de mariage.
They'll make her one of us, a loving cup, a loving cup.
We accept a one of us, we accept a one of us.
Gooba gobble, gooba gobble.
We accept her, we accept her.
Gooba gobble, gooba gobble.
One of us, one of us.
Gooba gobble.
They're going to make you one of them, my peacock.
Philippe, on était... on parlait en même temps qu'eux. C'est un...
C'est un banquet de noces, donc,
bien sûr. Oui, bah, tout le monde connaît... Enfin, on parle beaucoup de Freaks, mais parlons d'autres choses par rapport à Todd Browning, à d'autres films.
Bah, Todd Browning, Freaks, un bon angle d'attaque, parce que oui. C'est un de ses films parlants, et c'est un film sur les monstres, et c'est comme, en fait, Guillermo del Toro. Dans Freaks, ça se passe dans un cirque, il y a des phénomènes de cirque, donc la femme à barbe, l'homme sans bras, etc. Et en fait, les vrais monstres sont les êtres humains normaux. Mmh. L'homme de force, c'est l'écuyère, etc., qui essaye de... L'écuyère se marie avec un nain pour lui capter son héritage, en fait. Et voilà. Et dans le repas qui est organisé là, en fait, il y a toute la communauté des monstres qui veulent faire boire à l'écuyère une coupe pour dire... Elle est avec nous des monstres. Et elle a dit, je ne serai jamais comme vous. Et à partir de là, le drame s'enclenche. Et tout le cinéma de Browning, c'est ça. C'est quel est notre rapport aux monstres et à l'altérité, et est-ce qu'on peut aimer les monstres? Et dans ce parcours-là, il y a la rencontre avec Lon Chaney. Ouais, tout le cinéma muet, parce qu'il fait que 4 ou 5 films parlants, Todd Browning. Il fait 10 films avec Lon Chaney. Vous savez, l'homme aux 1000 visages, qui adorait se transformer en infirme, etc. Donc, je vous recommande à l'Ouest de Zanzibar. Ça, c'est des films extraordinaires. Le Club des Trois.
Oui. Allez à la cinémathèque.
C'est des films très rares. Oui. C'est l'occasion de les voir.
Exactement. Jusqu'au 4 mars. Merci beaucoup, Philippe Rouillet. On retrouve.
Bien sûr, toutes nos références et puis le podcast franceinter.fr, évidemment.
Rouillet, Philippe, Revue Positive, qui consacre un dossier à Guillermo del Toro, avec lequel nous allons terminer cette émission puisqu'il signe le générique. La forme de l'eau sort mercredi prochain. Allez-y.
This program was inspired by cinema. It was filmed in sound. It is radio. The title music was written by Sporto Cantes. The songs have been chosen by Muriel Teres. Martin Meissonier prepared the show. Anne Weinfeld directed. And Christine Masson and Lorraine Delmas produced and presented. And I, Guillermo del Toro, was in it.